propose à la fois à la suite de ce que nous venons de chanter à la fin de notre culte et puis aussi un petit peu dans la perspective de ce qui nous occupe de façon thématique pendant cette année scolaire sur la louange, l'adoration. Et donc là, nous avons chanté plusieurs cantiques qui m'ont fait penser à ces deux chapitres que nous lisons assez fréquemment, au moins en partie au culte, que sont les chapitres 4 et 5 du livre de l'Apocalypse. Alors, il y a quelques semaines, nous avions regardé quelques-unes des doxologies, donc de ces discours de gloire que nous trouvons parsemés dans les épîtres, en particulier les épîtres de Paul, mais pas que. Et le livre de l'Apocalypse est très riche de ces louanges qui montent vers Dieu, et en particulier ces chapitres 4 et 5. Et donc, il n'est pas illogique que nous y fassions référence assez souvent lors de notre culte. Néanmoins, vous savez, c'est comme un petit peu comme des airs très connus que nous connaissons, mais voilà, c'est un peu une musique connue. Si je vous lis certains versets d'Apocalypse 4 et 5, je pense que vous ne serez pas extrêmement surpris par les expressions que vous entendrez. Et ça me fait penser, vous savez, c'est un petit peu comme quand on écoute, je ne sais pas, par exemple, la fin de la 9e symphonie de Beethoven, vous savez, l'hymne à la joie. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très connu, on entend, voilà, etc. Mais ça vaut la peine, parfois, de décomposer un petit peu, et si vous avez un musicologue qui vous dit, ben, regardez, oui, effectivement, il y a ça, etc., eh bien, vous écouterez après l'hymne à la joie et les instruments qui sont derrière, et de façon un petit peu différente. Et donc, c'est un petit peu ce que j'aimerais vous proposer cet après-midi, de reprendre ces chapitres 4 et 5, lus, relus, chantés, mis en musique, maintes et maintes fois, mais aussi de regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils nous disent et comment ils peuvent alimenter notre louange et notre louange du quotidien, comme Paul qui nous y a encouragé tout à l'heure par ta prière. Alors, nous allons donc lire, si vous le voulez bien, ces deux chapitres. Alors, je vais les lire dans la version Darby parce que c'est laquelle j'ai plus habitué à l'entendre. Donc, je voulais volontairement le faire entendre dans la façon classique de les faire entendre en ces lieux. Donc, Apocalypse chapitre 4. Après ces choses, je vis, et voici une porte ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais ouïe, comme d'une trompette parlant avec moi, disant : Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celles-ci. Sur le champ, je fus en esprit. Et voici, un trône était placé dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un assis. Et celui qui était assis était, à le voir, semblable à une pierre de jaspe et de sardius. Et autour du trône, un arc-en-ciel, à le voir semblable à une émeraude. Et autour du trône, 24 trônes. Et sur les trônes, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres. Et il y a 7 lampes de feu brûlant devant le trône qui sont les 7 esprits de Dieu. Et devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et au milieu du trône et alentour du trône, 4 animaux, je vais dire plutôt êtres vivants, 4 êtres vivants plein Dieu devant et derrière. Et le premier être vivant est semblable à un lion. Et le deuxième être vivant semblable à un veau, et le troisième être vivant à la face comme d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle volant. Et les 4 êtres vivants, chacun d'eux ayant 6 ailes, sont tout autour et au-dedans plein Dieu. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était et qui est et qui vient. » Quand les animaux rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens tomberont sur leur face devant celui qui est assis sur le trône et se prosterneront devant celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetteront leur couronne devant le trône, disant : Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. Et je vis dans la droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit au-dedans et sur le revers, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à haute voix : Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? Et personne ni dans le ciel, ni sur la terre, ni au-dessous de la terre, ne pouvaient ouvrir le livre, ni le regarder. Et moi, je pleurais fort, parce que nul n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas. Voici, le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là debout, comme immolé, ayant sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, et lorsqu'il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens tombèrent sur leur face devant l'agneau, chacun ayant une harpe et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau, disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, de toute tribu et langue et peuple et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et je vis, et j'entendis une voix de beaucoup d'anges à l'entour du trône et des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, disant à haute voix, « Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et bénédiction. » Et j'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et au-dessous de la terre et sur la mer et toutes les choses qui y sont, disant « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants disaient « Amen » et les anciens tombèrent sur leur face et rendirent hommage. Alors, si vous avez bien compté, il y a 5 cantiques de louange dans ces 2 chapitres qui nous sont donnés, 2 au chapitre 4, 3 au chapitre 5. Mais avant d'en dire quelque chose, je voudrais dire que ces 2 chapitres sont extraordinaires. Alors, à la lecture, peut-être, encore une fois, très familière, mais il faut se laisser encore transporter par ces chapitres et ce que l'on a comme vision. Alors, ce sont 2 chapitres pour lesquels il ne faut pas faire de PowerPoint. Pourquoi il ne faut pas faire de PowerPoint? Parce que ce n'est pas possible. Comment vous pouvez mettre une image d'un lion qui est à la fois un agneau? Alors, bon, il y a des artistes qui ont essayé de faire une espèce de biface, voilà, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et puis, des êtres vivants qui sont pleins d'yeux et puis qui sont à la fois avec des faces, vous voyez, ça ne marche pas. Donc, on va essayer de décrypter un peu ce symbolisme, mais il est là pour nous décrire l'indicible, quelque part. Mais cet indicible, il peut être perçu néanmoins quand notre imagination créée par Dieu se laisse porter par les symboles qui nous sont donnés dans ces textes pour percevoir quelque chose de ce qui sera la réalité éternelle. Parce que ces chapitres, je pourrais les intituler « Attention, spoiler ». Pourquoi ? Parce que bon, cette semaine, j'entendais une chroniqueuse à la radio qui s'énervait parce que sur les réseaux sociaux, il y a une série, je ne me rappelle plus laquelle, qui vient de sortir et qui l'intéressait beaucoup. Et en fait, ça avait été spoilé dans les réseaux sociaux. Donc, elle était très énervée parce qu'elle connaissait la fin de la série alors qu'elle voulait savoir qu'est-ce qui allait se passer avant de connaître la fin. Voilà. Eh bien, finalement, les chapitres 4 et 5, c'est les spoilers de l'Apocalypse. Parce que on a, dès le départ, après les 7 lettres que Jean, sous la dictée de l'ange, hein, bien entendu, écrit aux 7 églises qui vont être les destinataires de ce livre extraordinaire, qui est le livre de l'Apocalypse, ce livre qui s'appelle Révélation en anglais, hein, Revelation. C'est bien une révélation de Jésus-Christ que nous avons là. Eh bien, donc, c'est, après ces 7 lettres, eh bien, il y a tous ces chapitres 4 à 21, avec plein de choses compliquées, etc., puis des choses très sombres, des catastrophes, des cataclysmes, des choses très noires, etc. Mais là, nous avons au départ une scène d'une luminosité incroyable et qui dit que finalement le triomphe est acquis. Et donc, c'est le spoiler de la suite. Parce que, quelque sombre et quelque terrible que soient les jugements qui vont tomber, s'abattre, et que, dont nous avons la description là aussi, sur une base largement symbolique dans les chapitres 6 à 19, 20 même, eh bien, nous savons que bien, la victoire est assurée. C'est comme si quelqu'un était allé le 6 juin 1944, au matin, au quartier général
de Ike, Dwight Eisenhower, et avait vu la carte avec pas simplement comment on préparait le D-Day, mais la fin, le 8 mai 1945, bientôt 8 mai, et on va rappeler le 80e anniversaire. Hein. Donc c'est comme si la carte, eh bien, déjà c'était fini. Et c'est ce que nous avons dans ces deux chapitres. Nous sommes admis dans le ciel, dans les lieux célestes, au quartier général de celui qui est le général en chef, qui remportera la victoire. Et il n'y a pas un doute là-dessus. Au 6 juin au matin, je pense qu'Eisenhower, il devait se dire, c'est pas gagné quand même cette histoire. Mais nous, on sait que c'est gagné. Et on sait que c'est gagné et on a ces deux chapitres-là. Extraordinaire. Alors, comment les aborder ces chapitres ? Je vous propose de les aborder un peu en voyant ce que j'oserais appeler les protagonistes, enfin ceux qui nous sont présentés en tout cas. Et le premier qui nous est présenté, nous l'avons au verset 2. Sur le champ, je fus en esprit. Voici un trône était placé dans le ciel et sur le trône. Oh, qu'est-ce qu'il y avait sur le trône ? La façon dont c'est écrit, il faudrait lire un assis. Un assis. Ah, quelqu'un qui était assis. Et donc, au travers de ces mots, de façon extraordinaire, nous avons une approche du Dieu infini. Et cette approche, elle est sous, me semble-t-il, trois angles complémentaires. D'abord, c'est une approche personnelle. C'est un assis, quelqu'un qui est assis. Donc, nous avons affaire à un Dieu personnel. Le Dieu, ce n'est pas la nature, ce n'est pas Gaïa, ce n'est pas quelque chose d'immatériel, ce n'est pas l'ensemble, nous ne sommes pas tous Dieu. Non, 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 il y a quelqu'un qui personnalise celui qui est le Dieu et qui est assis. Donc ça nous parle de cette stabilité, de cette assise, je ne sais pas comment le dire autrement, du fait qu'il y a... Il y a le contrôle total. Et alors, les louanges qui suivront diront cela sous une forme explicite. Mais déjà, vous voyez, le fait que Dieu soit représenté comme quelqu'un, comme une personne, quelqu'un qui est assis, nous parle de ce Dieu personnel qui est en contrôle total. Et puis, c'est un Dieu qui est incomparable, parce que vous aurez remarqué, et celui qui était assis était à le voir. Oh, qu'est-ce qu'il voit ? Jean, vous savez, parfois est appelé le voyant. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit quelque chose semblable à une pierre de jaspe et de sardius. Alors, c'est toujours très difficile, quand on a des pierres précieuses, en particulier dans l'Apocalypse, de savoir quelles sont les comparables aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on mettrait comme cristal précisément, hein ? Eh bien, là, une pierre de jaspe et de sardius, peut-être que les commentateurs disent que peut-être le plus simple, c'est de rappeler le diamant, le jaspe, parce que le jaspe cristallin ou transparent, on trouve ça ailleurs dans ce même livre. Donc, le diamant, c'est peut-être la pierre précieuse qui est la plus onéreuse sur Terre. Et donc, vous êtes peut-être allé voir les joyaux de la couronne à Londres, pour certains d'entre vous, là, vous savez, on voit ces pierres, en particulier un diamant là, qui est absolument énorme. Mais ça n'a rien à voir par rapport à Dieu. Et il y a aussi ce semblable, et puis semblable à une émeraude, vous voyez. Et Dieu, il n'est pas très facile à voir. Parce qu'il reste, si ce Dieu est personnel premièrement, il reste aussi inconnaissable. Et nous ne comprendrons jamais Dieu. Même au ciel, nous ne comprendrons jamais Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est au-dessus de sa création. Parce qu'il nous dépasse de façon absolument incroyable. Voilà. Et donc, il y a ce semblable. Ça nous fait penser, bien entendu, aux visions d'Ézéchiel, où à la fin d'Ézéchiel 1, vous avez le prophète qui a vu ce char de Dieu, et puis au-dessus, il y avait la ressemblance de quelque chose qui était comparable à... Voilà, il n'arrive pas. Et donc, nous n'arriverons jamais à comprendre complètement Dieu. Il reste le tout autre, celui qui est incomparable. Incomparable. Et c'est le troisième aspect, eh bien, qui est aussi très impressionnant, c'est que notre Dieu est impressionnant. Il n'est pas simplement personnel, inconnaissable, mais il est aussi impressionnant. Alors ça, c'est une note qu'il convient de faire retentir. C'est vrai que elle est particulièrement, je pense, importante à rappeler en 2025, où, façonné par 20 siècles de christianisme, et c'est heureux dans ce sens-là, on a plutôt spontanément tendance à associer Dieu à l'amour, à la proximité, à la bonté, etc. Et c'est très bien. Mais pour les anciens, d'abord, Dieu était impressionnant. Et les dieux, c'était impressionnant. C'est pour ça que bien souvent, les dieux, ils habitaient des volcans, des montagnes, des endroits très impressionnants. Et c'est ce que nous trouvons ici. Lisez le verset 5, et du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres. Ça nous fait penser à ce qui s'est passé quand Dieu s'est révélé sur la montagne de Sinaï, en Exode 19 et 20, où le peuple était tellement effrayé qu'il disait à Moïse, vas-y tout seul, hein, parce que nous, ça fait trop peur. Et puis même Moïse, Hébreux 12, nous dit, tout tremblant, il lui demanda que la voix ne lui soit plus adressée. C'est vrai que la proximité dans laquelle Dieu nous a introduites grâce à Jésus-Christ, et nous y viendrons plus tard, fait que nous n'avons plus cette peur de Dieu, mais quelque part, Dieu est effrayant. Et là, les termes qui sont utilisés, c'est quoi? C'est les éclairs, les voix et les tonnerres. Quelqu'un a dit qu'avant l'ère nucléaire, ce qui était le plus effrayant sur la Terre, c'était un très gros orage. Un orage très fort. Parce que quand il y a des éclairs partout, quand il y a du tonnerre qui rebondit entre les montagnes dans tous les sens, eh bien c'est vrai que ça peut être totalement effrayant. Et c'est ce qui est utilisé ici. Pour nous montrer cette majesté de ce Dieu qui est à la fois aussi impressionnant. Et nous avons besoin de revisiter cette notion de la transcendance de Dieu, de ce Dieu qui est si grand, si puissant, si fort. Et c'est pour cela que d'ailleurs il s'est rappelé le Tout-Puissant. Donc, cette vision commence par d'abord Dieu. Et c'est normal de commencer d'abord par Dieu. Mais ensuite, il y a rapidement après, verset 4, les 24 anciens. Alors, je vais revenir dans un instant, mais je ne vais pas prendre dans l'ordre. Je vais prendre d'abord les êtres vivants, ces êtres vivants que nous trouvons au verset 6. Pourquoi je les prends d'abord? Parce que ces êtres vivants, notez bien l'expression. Devant le trône, il y a une mer de verre semblable à du cristal, donc ça nous parle aussi de ce contrôle de Dieu, puisque la mer, souvent dans le livre de l'Apocalypse, est fort d'arrière-plan hétérotestamentaire riche, la mer c'est les peuples, et donc c'est la mer comme du cristal, mais c'est une mer, on parle de mer d'huile, mais si vous avez une mer de cristal, alors là c'est encore plus. Hein, eh bien ça nous parle que Dieu, par-dessus tous les peuples, toutes les nations, il a le contrôle total. Pour lui, les peuples, c'est comme si c'était du cristal. Il voit de façon transparente tout ce qui se passe et il est en contrôle total. Et ça, c'est très encourageant aujourd'hui quand on se demande si une discussion entre Zelensky et Trump va donner quelque chose pour la paix en Ukraine. Pensons à la mer du cristal de notre Dieu qui est au-dessus de tout et qui a tout sous son contrôle. Ça, c'est reposant aussi pour nous. Et donc, après cette mer de cristal, verset 6, au milieu du trône et alentour du trône, quatre êtres vivants pleins d'yeux devant et derrière. Et puis avec ses six ailes, etc., il vole, et puis ses quatre faces. Oh là là, c'est quoi ces êtres vivants? Alors le symbolisme est là un peu plus complexe. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la fois au milieu du trône, et qui c'est qui est au milieu du trône? C'est Dieu lui-même. Mais ils sont aussi à l'entour du trône. Et puis, ils sont quatre, tandis que Dieu est unique. Et quatre, souvent, dans la Bible, et en particulier dans l'Apocalypse, c'est les quatre points cardinaux. Ça au chapitre 7, chapitre 8, etc. Je ne vais pas donner toutes les références. Et donc, ces quatre êtres vivants, c'est les quatre points cardinaux, c'est l'entièreté de la Terre. De sorte qu'il me semble que ces quatre êtres vivants, eh bien, ce sont les attributs visibles de Dieu qui sont visibles dans sa création. C'est quelque chose qui est directement relié à Dieu, puisqu'ils sont au milieu du trône. Donc, c'est bien relié directement à l'être de Dieu lui-même. Mais ils sortent, ils vont autour du trône et ils ont des aspects qui représentent les quatre grandes classes de la création, les animaux sauvages, les animaux domestiques, les oiseaux qui volent et puis l'homme qui est le couronnement de la création. On peut voir aussi quatre aspects divins cohérents qui sont la domination avec le lion, la force avec le veau, l'intelligence avec l'homme et puis je dirais le contrôle avec l'aigle qui survole tout ça. Donc, ça nous parle un petit peu de cette façon dont Dieu se perçoit. Parce que Dieu, il est l'inconnaissable, il est tout en haut. Comment on peut voir Dieu ? Bien, on peut le voir dans sa création, sous des aspects divers. Et c'est et dans la façon dont la création est animée. Nous n'avons pas affaire à une création statique. Et on le voit, la création, elle est en mouvement, les choses bougent, le printemps fait que les fleurs poussent, etc. Et donc, dans l'action de Dieu, dans cette création, dans ce qu'il a créé, eh bien, reflète quelques attributs de son être. Et en particulier, sa sagesse et sa puissance. D'où ces animaux, qui sont les chefs de la création, hein. Lion, le plus fort des animaux traditionnellement. Quand on voulait prendre aussi un animal domestique fort, ben c'est le plus gros, c'était le taureau, le veau, etc. Et puis l'oiseau le plus puissant, c'était l'aigle aussi. Donc vous voyez, donc cette puissance se voit et aussi cette sagesse. C'est pour ça qu'il y a tous ces yeux. Et cette sagesse de la création, eh bien, on la voit quand on ouvre Science et Vie ou qu'on regarde un documentaire. Parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Plus on va dans le petit, plus on va dans le grand, quel que soit, on voit un agencement, mais d'une sagesse, d'une cohérence, etc., que l'homme parfois détruit, certes, mais qui, je dirais à l'état natif, est absolument fabuleux. Absolument fabuleux. Et qui reflète, c'est exactement ce qu'on a. Vous voyez, c'est dit sous une forme symbolique, mais la prochaine fois que vous ouvrirez ou que vous lirez un article sur une découverte scientifique, pensez à ça. C'est les yeux. C'est tout autour et dedans, plein d'yeux. C'est les quatre êtres vivants. C'est Dieu qui se montre dans la gloire de sa création, de ce qu'il a créé, qui est extraordinaire. Vous voyez ? Et donc, ces quatre êtres vivants, ils sont ces quatre aspects visibles. C'est pour ça qu'ils sortent du trône et puis se répandent autour dans tout ce que Dieu a créé et qu'il a fait. Et puis, il y a nos fameux 24 anciens. Ah, alors ça, c'est quoi ? Tout le monde n'est pas toujours d'accord sur l'interprétation des 24 anciens. Certains disent que c'est des anges. Personnellement, je ne le pense pas, puisqu'on voit les anges après. Ils sont bien distincts de ces 24 anciens. 24, c'est quoi ça ? 24, hein, 24, c'est pas un chiffre qu'on retrouve aussi souvent que 4 ou 7, etc. Mais on le retrouve quand même dans l'Ancien Testament, en particulier dans les classes qui étaient instituées par David pour la louange dans le temple. Ah, ça c'est intéressant ça, parce que les classes de sacrificateurs ou les classes de lévites, de chantres, parce qu'on va voir après qu'ils chantent justement, donc le lien est assez direct. Puis 24, on retrouve aussi 24, on le retrouve à la fin du livre, et là aussi c'est toujours intéressant de regarder un livre dans sa cohérence, et on le retrouve à la fin parce que dans la Nouvelle Jérusalem, il va y avoir les 12 portes et les 12 murs, les 12 noms des tribus d'Israël et les 12 noms des apôtres de l'agneau. C'est une piste fort intéressante pour nous qui nous permet, me semble-t-il, de voir derrière ces 24 anciens l'ensemble du peuple de Dieu de l'ancienne et de la nouvelle alliance réunis et unifiés pour être autour de Dieu. Et vous aurez remarqué que c'est eux qui sont dans la proximité la plus étroite avec le trône, avec celui qui est avec le assis, puisqu'ils sont tout de suite après. Alors, il y a la description autour du trône, cet arc-en-ciel, semblable à le voir à une émeraude. Alors, certains disent un halo, on peut traduire sans doute des deux manières, mais si on prend l'arc-en-ciel, eh bien, c'est cette alliance que Dieu a fait avec la terre, et cette alliance, elle aboutit justement à ces 24 anciens. Ces alliances qui en fait sont multiples, mais peuvent être regroupées aussi dans une seule et même alliance de Dieu avec l'humanité qu'il a créée pour cela, eh bien, cette alliance, elle aboutit à ces 24 trônes, et sur ces 24 de 24 anciens. Alors, pourquoi ils sont appelés anciens ? Alors là aussi, c'est pas forcément évident de le saisir. Hein. C'est peut-être parce que les anciens étaient représentatifs, peut-être parce que les anciens, c'était ceux qui, dans l'Ancien Testament, en Exode 24, avaient eu le privilège de ratifier l'alliance sinaïtique et de voir Dieu, comme il est dit, ils virent Dieu et ils purent manger et boire quand même. Voilà, peut-être il y a une allusion là-dessus. Peut-être aussi ça nous fait penser au fait que quand l'Église et le peuple de Dieu globalement sera admis dans la situation finale, eh bien il y aura cette maturité à laquelle nous sommes appelés. Et ça nous fait penser à Éphésiens 4, versets 14 à 16, où nous sommes invités en tant qu'Église à grandir jusqu'à la stature de la plénitude de Christ. voyez, cette croissance jusqu'à la maturité qui est représentée par sans doute ce terme d'ancien. Et les anciens, vous remarquerez qu'ils sont aussi assis. Donc là aussi, eux, ils sont assis également. Ils ont une position stable. Ils ont une position stable par rapport à Dieu. Donc, ils ont une dignité qui leur est conférée. Et il y a deux caractéristiques particulières. Ils ont une dignité comme humain, et c'est ce que je veux voir derrière les couronnes d'or, parce que ce n'est qu'au chapitre 5 qu'on va parler de la rédemption. Donc, quelque part, les couronnes d'or me font penser au psaume 8. Tu as fait l'homme un peu moindre que les anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Donc, en tant que créature humaine, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons cet imago Dei en nous, eh bien, nous avons une couronne quelque part sur la terre, la tête. Nous avons cette dignité d'être humain créé à l'image de Dieu, destiné à soumettre, dans le bon sens du terme, la création, à dominer sur elle. Et d'où ces couronnes d'or, dans ce chapitre 4, qui nous parle du Dieu créateur. Et donc, tout être humain potentiellement, même si cette potentialité n'est pas parfois toujours transformée, hélas, eh bien, a cette dignité d'avoir cette couronne d'or sur la tête de ce que Dieu a créé Adam et Ève comme devant dominer sur sa création. Donc il y a cette dignité comme humain, mais il y a aussi ces vêtements blancs qui anticipent quelque peu ce que nous trouverons au chapitre 5, cette dignité de sauver. Parce que sinon, il ne pourrait pas être autour du trône de Dieu s'il n'y avait pas les vêtements blancs. Donc le voyant est obligé de donner ce détail immédiatement. Parce que sinon, autour du trône, ce serait vide s'il n'y avait pas les vêtements blancs. Et après, il faut attendre le chapitre 5 pour expliquer comment ces vêtements sont blancs et comprendre aussi, à la lumière du chapitre 19, la signification de cela. Mais donc, retenons ces 24 anciens avec leur dignité comme créatures de Dieu, ces couronnes d'or, et cette dignité en tant que sauvés avec ces vêtements blancs. Et donc, tout cela, donc les 24 anciens et les 4 êtres vivants, eh bien, ils chantent, ils louent plutôt. Et alors, la première louange, la première des 5 louanges d'Apocalypse 4 et 5, nous la trouvons au verset 8. C'est les 4 êtres vivants qui proclament « Saint, 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 Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient ». C'est cette phrase-là qui rappelle naturellement, pour ceux qui ont un petit peu de mémoire peut-être, Ésaïe chapitre 6, avec cette c'est pas Dieu trois fois saint, on le chante parfois, je le chante, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais c'est Dieu saint au cube en fait, parce qu'on a un hébraïsme ici. En hébreu, quand on voulait dire quelque chose était très beau, on disait beau, beau, voilà, on répétait l'adjectif. Mais pour Dieu, ça ne suffit pas. Il faut le dire trois fois. C'est saint au cube. Ce n'est pas simplement très très saint, c'est plus que très saint. Vous voyez ? Et c'est ce que nous... Et qu'est-ce que ça veut dire que... Pourquoi ils disent saint ? Qu'est-ce que ça veut dire saint ? Saint, ça veut dire que Dieu est à la fois tout autre. Il dépasse tout le reste. Dieu est Dieu. La sainteté de Dieu, ce n'est pas d'abord et avant tout un caractère moral, même si ça en dérive forcément. On nous dit un saint, c'est quelqu'un qui se comporte bien. C'est ça dans notre idée. Mais non, c'est pas ça. À la base, saint, c'est autre que la création. Et donc, ça nous montre bien que ce que les êtres vivants, qui sont les attributs de Dieu montrés dans la création, ce que ces êtres vivants exaltent, c'est le fait qu'il y a la création d'un côté, mais il y a celui qui l'a créé qui est autre et qui est tellement supérieur encore à ce qu'il a créé. Et déjà, ce qu'il a créé, c'est tellement beau. N'est-ce pas ? Donc, il chante cette création qui est magnifique. Et alors, j'aimerais peut-être vous lire... Dès que je retrouve... Oui. J'aimerais vous lire quelques extraits d'un texte qui restera peut-être, je pense, comme le testament le plus fort du pape François, qui est l'encyclique Laudato Si, qu'il a écrite en 2013, qui est 2014, je ne sais plus exactement l'année, je corrigerai, qui est donc un texte dans lequel il met en avant la grandeur de la création de Dieu. Et je cite quelques phrases là-dessus. « Tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. L'histoire de l'amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace géographique qui se transforme en un signe éminemment personnel, et chacun de nous a en mémoire des lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. Celui qui a grandi dans les montagnes, ou qui enfant s'asseyait pour boire l'eau au ruisseau, ou qui jouait sur la place de son quartier, quand il retourne sur ses lieux, se sent appelé à retrouver sa propre identité. Dieu a écrit un beau livre, dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures présentes dans l'univers. Aucune créature ne reste en dehors de cette manifestation de Dieu. Des vues panoramiques les plus larges à la forme de vie la plus infime, la nature est une source constante d'émerveillement et de crainte. Elle est en outre une révélation continue du divin. Entendre chaque créature chanter l'hymne de son existence, c'est vivre joyeusement dans l'amour de Dieu et dans l'espérance. Cette contemplation de la création nous permet de découvrir à travers chaque chose un enseignement que Dieu veut nous transmettre. Parce que, pour le croyant, contempler la création, c'est aussi écouter un message, entendre une voix paradoxale et silencieuse. Nous pouvons affirmer qu'à côté de la révélation proprement dite qui est contenue dans les Saintes Écritures, il y a donc une manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans la nuit qui tombe. En faisant attention à cette manifestation, l'être humain apprend à se reconnaître lui-même dans la relation avec les autres créatures. L'ensemble de l'univers, avec ses relations multiples, révèle mieux l'inépuisable richesse de Dieu. Par conséquent, on comprend mieux l'importance et le sens de n'importe quelle créature si on la contemple ainsi dans l'ensemble du projet de Dieu. L'interdépendance des créatures est voulue par Dieu. Le soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, l'aigle et le moineau, le spectacle de leurs innombrables diversités et inégalités signifie qu'aucune des créatures ne se suffit à elle-même. Elles n'existent qu'en dépendance les unes des autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres. Quand nous prenons conscience du reflet de Dieu qui se trouve dans tout ce qui existe, le cœur expérimente le désir d'adorer le Seigneur pour toutes ses créatures. Et c'est exactement ce que nous trouvons dans cette première louange, « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était et qui vient. » Et dans le second chant, « C'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. Voilà. » Et donc, il est légitime pour notre part de faire monter à la fois cette louange au Dieu rédempteur, nous y viendrons, mais d'abord et avant tout à celui qui est le Créateur, et qui est salué comme étant à la fois autre que sa création, mais qui peut recevoir gloire, honneur et puissance parce qu'il a créé. Et c'est le sens de ce deuxième cantique de la fin du chapitre 4. Et un détail qui me semble très important, c'est que par rapport à cette fin du chapitre 4 et à cette deuxième louange, c'est que cette deuxième louange, vous remarquerez qu'elle est personnelle. « Tu es digne », disent les anciens. Les êtres vivants, ils ne disent pas « tu es digne », ils proclament la grandeur, parce que du fait même de leur action, ces attributs de Dieu qui sont vus dans la création, eh bien, ils exaltent la grandeur de ce Dieu qui se montre avoir, comme le pape François le disait dans cette encyclique dont j'ai cité quelques phrases, qui se montre avoir au travers de sa création. Tandis que les 24 anciens, verset 10, au verset 11, qui disent « tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu ». Parce qu'il y a cette relation personnelle. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Et alors, de ce fait, je pense que ces expressions et ces louanges, eh bien, ça aussi, ça peut nous apaiser par rapport à l'angoisse écologique qui peut nous saisir. Et probablement à juste titre, vu la baisse du vivant dans la biodiversité, vu les risques climatiques, vu la pollution qui se développe, vu les problèmes d'eau, on pourrait parler des 5 pressions de l'IPBES, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Mais on peut se dire, mais cette création si belle, eh bien, qu'est-elle devenue soumise à la vanité des hommes? Mais il est celui qui était, qui est et qui sera? Non, qui vient. Et notre Dieu vient pour racheter la création. Parce qu'il y a cette espérance que nous ouvre Romains 8, qu'un jour la création sera délivrée de la vanité par celui qui vient. Parce que notre Dieu vient et qu'il y aura ce rétablissement de toutes choses, cette réconciliation non seulement des êtres, qui est déjà le partage de ceux qui donnent foi à l'œuvre de Jésus-Christ, mais cette réconciliation aussi des choses dont nous parle Colossiens 1, et qui fera que celui qui vient va pouvoir rétablir toutes choses. Et c'est les tableaux que nous présentent aussi certains textes de l'Ancien Testament de rétablissement de la création que nous attendons également et qui nous donne du coup une assurance. Est-ce que les choses iront de mal en pis? C'est possible. Mais nous avons la ferme assurance qu'un jour, celui qui vient, il rétablira toutes choses belles, magnifiques, splendides, comme il voulait que cela soit. Et comme malheureusement, cela n'a pas été parce que l'homme a gâché les choses. Et une deuxième conséquence aussi de ces deux premiers cantiques, c'est qu'il nous faut retrouver notre place de créature devant notre Dieu. Parce que, nous l'avons dit plusieurs fois, nous avons été créés pour louer Dieu, et donc notre place de créature, c'est de rendre gloire à Dieu. C'est d'être dans cette posture de « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » Sorte que quand nous chantons le 194 de Reflet, qui commence par cette gloire, honneur, puissance, exactement par ça, eh bien, nous prenons notre place de créature devant notre Dieu, parce que c'est par sa volonté que tout a été créé, jusqu'au couronnement de la création qu'est l'être humain. Alors, la section de l'Apocalypse ne s'arrête pas à la fin du chapitre 4, parce que quelque part, ça nous introduit dans la création, mais on sent bien qu'il y a quand même un petit malaise quand nous comparons exactement tout ce qui est développé et puis les choses telles qu'elles sont. Et c'est pour cela qu'au chapitre 5, nous avons la poursuite et dans cette création qui existe, se déroule l'histoire avec un grand H. Et cette histoire, elle nous est retracée au travers de ce livre dont il est question ici. De ce livre qui était écrit au-dedans et sur le revers et scellé de sept sceaux. Alors, c'était très particulier à l'époque, quand on écrivait un rouleau, et la plupart des rouleaux qu'on a retrouvés n'étaient écrits que sur une face, n'étaient pas écrits sur les deux faces. On s'est beaucoup posé de questions, pourquoi le rouleau est écrit sur les deux faces? Quand il y a une singularité comme celle-là, ça titille notre intelligence, on se dit, mais pourquoi? Eh bien, on peut penser aussi que, en fait, quand vous avez un rouleau qui est écrit que sur une face, on pourrait dire, j'ai encore de la place pour écrire derrière, quoi. Donc, je peux continuer. Non, les plans de Dieu, ils sont complètement établis. On ne peut pas rajouter, nous. Non, c'est le plan de Dieu, il est prévu et il est complet. Et il est scellé de sept sceaux. Et là, on a trouvé que, en fait, les volontés des empereurs romains, apparemment à l'époque, eh bien, quand ils faisaient leur testament, ils le roulaient, et puis il y avait sept sceaux qui étaient apposés. Et donc, ça nous parle de ce plan qui est voulu par l'empereur par excellence, le Assis, dont il est question au chapitre 4. Et donc, il y a tout ce plan de Dieu qui doit se dérouler dans le cadre de cette création dont nous a parlé le chapitre 4. Donc, ce plan qui est l'histoire, mais l'histoire a-t-elle un sens? Alors ça, c'est un bon sujet de philo. Hein. Je ne sais pas si ceux qui sont en terminale et ils peuvent réfléchir là-dessus. Ça va peut-être tomber au bac. Je ne sais pas. L'histoire a-t-elle un sens? Eh bien, le chrétien appuyé sur Apocalypse 5 peut dire oui. Alors, je ne sais pas si une copie de philo, ça vaudra une bonne note. Mais enfin, voilà. En tout cas, toujours est-il qu'on peut le dire. Parce que si l'histoire n'a pas de sens, eh bien, il n'y a qu'une seule posture légitime, c'est de pleurer. Et c'est ce que fait Jean. Ben oui, si l'histoire n'a pas de sens, eh bien, on est livré au désespoir. Et c'est ce à quoi ont abouti un certain nombre de philosophes en réfléchissant sur ces sujets et sur l'absurdité du monde dans lequel nous vivons. Parce que si on élimine le Créateur d'un côté, chapitre 4, qu'on élimine le sens de l'histoire, chapitre 5, il ne reste que le désespoir. C'est meaningless. Ça n'a pas de sens. On ne peut même pas ouvrir le livre, mais même pas le regarder. On ne peut même pas trouver un... Regarder, ça veut dire pouvoir lire un petit peu. On ne peut pas trouver de sens. Et donc, il est nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Et alors, ce quelqu'un arrive. Et c'est ce que nous avons au verset 6. Et donc, au protagoniste du chapitre 4, qui était celui qui était assis, les 24 anciens, les 4 êtres animés, se rajoutent maintenant... quelqu'un qui est au milieu du trône. Au milieu du trône. Et si vous avez besoin, je ne suis pas peut-être en discussion avec les témoins de Jéhovah, d'un argument pour la divinité de Jésus-Christ, eh bien ces deux chapitres, ils sont pas mal. Parce que qui peut être au milieu du trône sinon quelqu'un qui est Dieu, puisque au milieu du trône, c'est Dieu. D'accord ? Et après, on verra les louanges, les trois derniers cantiques qui nous sont rapportés, ils associent de façon étroite celui qui est assis sur le trône et l'agneau. Et ça, constamment dans le livre de l'Apocalypse, on a l'association entre les deux. Et donc, celui qui est au milieu du trône, c'est Dieu lui-même, et des quatre animaux. Donc, c'est celui aussi par lequel tout fut créé, hein, Jésus-Christ, qui est l'artisan de cette création, et au milieu des anciens. Donc, c'est lui qui est au centre du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne prend son sens que parce qu'il y a celui qui est au milieu du trône. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit un agneau qui se tenait là debout. Un agneau là debout, comme immolé, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Donc cet agneau, il a quatre caractéristiques. Il a été immolé, et ça nous est rappelé ensuite au verset, lors du troisième cantique, enfin du premier cantique du chapitre 5, verset 9. Et c'est encore rappelé lors du deuxième cantique du chapitre 5 au verset 12. Il a été immolé, sacrifié. Donc ça nous parle de ce sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix, qui était l'aboutissement de tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Donc premièrement, il est immolé, donc la croix. Deuxièmement, il est debout. Alors, Darby traduit « se tenait là », mais il vaut mieux traduire « se tenait debout ». Il n'est pas assis, il est debout. Qui c'est qui s'est levé, porteur d'une vie impérissable de la mort? Eh bien, c'est Jésus-Christ. Et donc, derrière ce debout, j'y vois la résurrection. Et puis, c'est quelqu'un qui a les sept cornes. Et les cornes, dans l'Ancien Testament, c'était l'attribut de la puissance royale. Pour cela que dans le livre de Daniel, il parlait de cornes, etc. Je vous renvoie là-dessus. Et qui c'est qui a pu dire, quand il était sur le point de monter vers son Père, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ?» Eh bien, c'est Jésus-Christ. Donc, derrière les sept cornes, je vois l'ascension de Jésus-Christ et sa glorification. Et ensuite, les sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre, à la Pentecôte, Jésus glorifié envoie l'Esprit qui se répand sur toute la terre. Donc, vous voyez, derrière ces quatre petits mots, quatre petites expressions, nous avons finalement l'histoire de Jésus-Christ, celui qui était Dieu, qui est devenu agneau et qui a rempli les promesses de l'Ancien Testament. C'est pour cela qu'il est appelé de la tribu de David, de Juda, de la racine de David, qui a vaincu. Et cette victoire, elle est passée par la croix, elle est passée par la résurrection, par la glorification et par l'envoi du Saint-Esprit sur toute la terre. Et alors, c'est lui qui peut prendre le livre de la main droite de celui qui était sur le trône. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, eh bien, c'est « Alléluia !» C'est tout, le cœur retentit. Et il ne peut pas en être autrement. Et nous avons les trois louanges successives, par vagues, si vous voulez, de concentriques. On commence par ceux qui sont les plus près du trône, et puis on va de plus en plus loin. C'est trois phases de louanges qui se développent. Alors la première, c'est sans doute une de celles qui nous touche le plus, puisque c'est celle qui est exprimée par ces 24 anciens qui tombent sur leur face, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Ah, ça vaut la peine de décrypter un peu ça. Les harpes. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous sont allés au concert et ont vu une harpe. Clarisse a joué de la harpe pendant 2 ans, donc on avait dans le séjour un instrument relativement imposant, qui est d'ailleurs... Il fallait un quart d'heure pour serrer tout pour que ça joue juste. Voilà, enfin, c'est une harpe, c'est majestueux. Les harpes de l'époque, ce n'était pas ça. Les harpes de l'époque, c'était un truc beaucoup plus petit et puis qui était un instrument de fête, qui était un instrument de joie. Ce n'était pas, un instrument un peu solennel comme peut être la harpe aujourd'hui, vous voyez. Harpiste, vous ne voyez pas quelqu'un qui est youpla comme ça. Non, une harpiste en général, une dame, peut-être avec les cheveux longs, je ne sais pas, vous voyez, c'est sous la neige. Voilà, tandis qu'il ne faut pas avoir cette image-là. C'est joie au ciel. C'est ça qu'il y a derrière les harpes. Nous avons chanté harpes et cantiques remplissent les cieux. Voilà. Donc, ces harpes, c'est un instrument de joie. Donc, c'est un symbole pour nous dire. Eh bien, ces 24 anciens, ils sont super joyeux. Ils sont super joyeux parce que ils n'ont pas le désespoir. C'est en contraste total avec les pleurs du début du chapitre. Et nous, nous avons une joie. J'aime beaucoup citer le titre de la biographie, l'autobiographie de C.S. Lewis. Il a écrit son autobiographie, il a intitulé « Surpris par la joie ». C'est un intellectuel extraordinaire qui avait beaucoup réfléchi à beaucoup de sujets. Et quand il s'est converti au christianisme, ce qui l'a touché, c'est « Surpris par la joie ». Cette joie ineffable et glorieuse, cette joie qui est la nôtre. Parce qu'on n'est plus dans le désespoir. On sait qu'il y a un sens à l'histoire. On sait qu'il y a un créateur dans ce monde. Et donc, on prend notre harpe. Bling, 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 bling. Ça y est, c'est le moment de chanter. Et ils chantent, ils chantent. Les autres, ils disent, on l'a plusieurs fois remarqué, hein, les quatre êtres vivants au chapitre 4, ils ne cessent de dire, premier des cinq cantiques, le deuxième cantique, les anciens, ils disent, mais au troisième cantique, donc le cantique central, si on fait un petit casque, eh bien, et il chante un cantique nouveau. Il chante un cantique nouveau. Voilà. Harpes et cantiques remplissent les cieux. Et ce cantique, il est nouveau dans le sens il est d'une autre nature. Il chante un cantique qui nous introduit dans une nouvelle sphère parce qu'il y a eu quelqu'un qui a été digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, qui a été immolé et qui a acheté pour Dieu par son sang de toute tribu et langue et peuple et nation, et fait roi et sacrificateur pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Alors, je ne vais pas passer du temps pour décrire tous ces aspects-là, mais juste un mot peut-être sur toute tribu et langue et peuple et nation. Parce que ça nous parle de cette vision unificatrice de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Les hommes se sont divisés à partir de Babel, jugement de Dieu, ils se sont divisés en plein de langues différentes. Et c'est vrai que c'est compliqué parfois de se comprendre quand on a des langues différentes. Ils se sont divisés en plein de tribus. Tribus, c'est le clan. Ma tribu et ta tribu, on s'oppose, etc. De peuples. Les peuples, c'est une entité qui a une histoire spécifique, qui est parfois aussi un peu chauvin, etc. Etc. Et puis de toute nation, alors le mot grec a donné ethnie, donc on dirait race, mais ce terme est tellement piégé. Mais enfin, toute barrière a été abolie, en tout cas par l'œuvre de Christ, tout en gardant la spécificité. C'est ça qui est magnifique. C'est à la fois un peuple uni, mais qui vient aussi, qui n'est pas un peuple unicolore, qui est multicolore mais uni. Et ça, les hommes n'ont jamais pu le faire. Soit on veut que tout le monde soit monocolore pour être uni, soit sinon, eh bien, si on est multicolore, on est désuni. Et dans le peuple céleste de Dieu, par l'œuvre de Christ à la croix, eh bien, il y a des multicolores, mais qui peuvent être unis. Ah, gloire à Dieu. Et donc, ils seront rois et sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Ça nous dit que la destinée du peuple de Dieu, c'est d'être sur une nouvelle terre, une terre renouvelée, mais dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, donc en relation avec le ciel, certes, mais notre destinée, elle est terrestre, parce que nous sommes des hommes, et que la terre est l'habitation que Dieu a prévue pour les hommes, une terre renouvelée et débarrassée des conséquences du péché, mais une terre quand même, et c'est ce que nous trouvons derrière cette expression-là. Et alors, la louange ensuite s'amplifie, il y a les anges, hein, donc des myriades de myriades, ça fait, une myriade c'est 10 puissance 4, donc là on est 10 puissance 8, donc ça fait 100 millions d'anges, donc c'est quand même pas mal, et puis il y en a des, on ne sait pas combien, hein, de 100 millionième d'anges, voilà. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup d'anges. Donc, et ils disent à haute voix, digne est l'agneau qui a été immolé. Et donc vous avez remarqué, eux, ils ne disent pas tu es digne. Parce qu'il n'y a que les hommes et les femmes qui sont au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ, qui sont en relation personnelle. Le tu est digne. Eux, ils disent digne est l'agneau qui a été immolé. Pourquoi ? Parce que les anges désirent de regarder de près dans l'œuvre de Christ à la croix, 1 Pierre chapitre 1, verset 12. Et donc, ils observent le sacrifice que le Christ a fait à la croix, l'agneau qui a été immolé, et ils peuvent lui rendre la puissance, richesse et sagesse et force et honneur et gloire et bénédiction, mais sans cette relation personnelle qui est notre privilège personnel. Et puis ensuite, troisième vague, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, au-dessous de la terre, la mer, toutes les choses qui y sont, qui disent à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Et la création participe à cela, elle dit « Amen », et les anciens tombent sur leur face et rendent hommage. Quelle vision, mes amis. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et l'Apocalypse s'arrête là. Ah non. Chapitre 6, ça se gâte. Parce que au chapitre 6, on voit les quatre êtres vivants, donc cette création, qu'est-ce qui se passe? C'est les quatre êtres vivants qui disent comme une voix de tonnerre, viens. Et puis, qu'est-ce qu'il voit? Viens, il voit. Et qu'est-ce qu'il voit? Jean, il voit quatre chevaux qui parcourent avec, avec des difficultés, soit la guerre, soit la mort, soit les problèmes économiques, soit plein de problèmes qui sont là. Mais nous avons eu auparavant la vision du chapitre 4 et du chapitre 5. Les problèmes sur la terre, ils sont réels. Les problèmes pour le peuple de Dieu, tu as prié pour nos frères et sœurs persécutés, il y a les âmes sur l'autel, hein, sous l'autel, dans ce chapitre 6. Et puis tant de problèmes. Et Jésus a dit, au chapitre 24 de Matthieu, avant de quitter les siens, que jusqu'à ce qu'ils viennent, il y aurait des troubles, des problèmes, etc. Et nous avons vu la salle de contrôle. Nous sommes montés dans le ciel. Nous avons vu celui qui est assis. Nous avons vu celui qui a pris le livre, qui peut donner un sens à l'histoire. Et alors, même s'il y a plein de problèmes, eh bien nous savons que l'issue est certaine, elle est glorieuse, elle est magnifique pour nous. Oui. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à l'Éternel. Amen.